Chapitre 25. Une idylle. Les songes heureux s'en vont d'ordinaire au premier rayon, comme la rosée. Cette fois, chose singulière, quand le matin vint me réveiller, je m'aperçus que mon rêve ne s'envolait point. Un vrai soleil entrait par les rideaux et se jouait sur une foule de réalités charmantes, dont la moins charmante n'était pas Rosette, qui s'étirait les bras en riant. « Quels grands yeux tu fais, Jean des Figues !»« Pour mieux t'admirer, mon enfant !»« Oh non, Jean des Figues, ne mens pas, c'est mon appartement que tu admires !»« On n'en voit guère de pareil, pas commode, mais original !»« Mon imbécile de Valac a pris cela tout fait dans un livre !» Et de sa petite main brune, elle me montra un livre à riche reliure qui se promenait dans les coussins. Horreur ! Ce livre, c'était mon livre, et l'hôtel de Rosette, je m'en apercevais enfin, la description réalisée du palais idéal bâti pour mon héros. Oh, profonde et comique humiliation des poètes et de la poésie ! Cet hôtel où je m'éveillais, ma fantaisie l'avait créé tout entier, depuis la première marche de son escalier de marbre jusqu'à la plus haute ciselure de son toit doré, le galant encadrement des glaces, les plis amoureux des tentures, j'avais tout trouvé, tout imaginé. Cet oreiller mignon, c'est moi qui en avais choisi la dentelle, et ce peignoir de soie blanche où Rosette s'enveloppait si bien, c'est moi encore qui en avais compté les broderies à jour, les nœuds de ruban et les échancrures. Or, pendant que je soupirais ainsi après un paradis chimérique, le Valac prenait mon rêve tout fait, tranquillement, et pour rendre la dérision plus amère, dans cet écrin qu'il me volait, qui installait-il ? Rosette, ma petite perle noire. « Ah, nom de sort ! » m'écriai-je en faisant voler le malheureux livre par la fenêtre. Rosette, qui ne comprenait rien à cette subite fureur, s'imagina que j'étais jaloux et fut ravie. « Ne pense plus au Valac, me dit-elle. C'est moi qui ai eu tort de t'en parler. Mais, si tu veux, je vais demander 8 jours de congé à mon théâtre et nous les passerons tous deux à la campagne. » Ce projet ne me déplut point. Un bois, quand il s'agit d'encadrer une jolie fille, vaut les plus riches hôtels du monde. Et là, je n'avais pas à craindre que l'ombre du Valac m'importunât. Vite, en chemin de fer. Nous sautons du wagon aux premiers arbres et nous voilà partis à la découverte d'un bois. « En voici un qui sera complet avec 2 amoureux !» s'écriait Rosette de temps en temps. « Il est déjà plein de fleurs et de tourterelles !» Mais, au bout d'une heure, on y découvrait des peintres, il fallait s'en aller plus loin. Nous passâmes ainsi les 8 plus beaux jours dont je me souvienne, mais presque sans m'en douter, car notre pauvre nature humaine est ainsi faite que si le regret n'existait pas, le bonheur n'aurait de nom dans aucun dictionnaire. Loin des autres, tout à Rosette, je me laissais aller à être amoureux naïvement. Je ne m'occupais pas de savoir, comme à Canteperdry, si mon amour ressemblait bien à celui de pauvre Mitre. Grisé par l'odeur qu'ont les bois au printemps, je ne m'inquiétais guère non plus qu'un pareil retour de passion n'aurait pas manqué de provoquer parmi mes amis du Cénacle et, je crois, Dieu me pardonne, que Rosette me demandant comme autrefois « Et si je te quittais, Jean des Figues ?» Jean des Figues aurait répondu « Si tu me quittais, Rosette, j'en serais malheureux autant que n'y voulasse. » Mais Rosette ne me le demanda pas, Rosette avait bien autre chose à faire. La grande nature la transportait. Aux moindres ondulations du terrain, tiens, ça monte, tiens, ça descend. Et c'était des éclats de rire. Elle avait voulu, pour mieux courir, quitter ses bottines à hauts talons et ses jupons à créneaux. J'eus le bon goût de l'en dissuader. Laissons dire les faux rustiques. La nature est bien assez luxueuse pour que tout luxe soit en harmonie avec elle. Une marche de marbre rose, l'est à merveille envahie par la mousse et cachée à demi sous les rosiers d'un parc devenu buisson, et la robe de Diane de Poitiers, ourlée d'or et de perles fines, ne devait pas vraiment avoir mauvaise grâce, à tramer sur le gazon des pelouses dans les forêts royales de Chambord ou de Chenonceau. Mais c'est Rosette qu'il fallait voir, étendue paresseusement sous son ombrelle, au milieu des herbes du bon Dieu, avec sa robe de soie voyante, ses pompons, ses rubans flottants et ses dentelles, et ses gants étroits boutonnés, et ses délicates chairs parisiennes, d'où s'exhalait un fin parfum de boudoir qui devait bien étonner les fleurs. Rosette n'aurait plus quitté les bois, dont les belles futaies humides les tonnaient en la ravissant autant qu'une forêt vierge et ses lianes. Rosette ne connaissait, comme moi, que les belles aridités du Midi provençal, ses côtes plantées d'oliviers couleur d'argent et d'amandiers au feuillage pâle, ses rochers couverts de lavande et ses ravines brûlées du soleil, sans un brin d'herbe, où coule sur la marne bleue un mince filet d'eau claire. Ici, au contraire, la verdure et l'eau, les fleurs humides, les mousses mouillées où le pied s'enfonce, et partout, même aux endroits élevés du bois où n'apparaissent ni étangs ni fontaines, un bruit d'eau cachée qui vous environne, comme si de petites sources couraient de tous côtés sous vos pieds en nombre infini et montant par d'invisibles canaux dans l'intérieur des hautes herbes et jusqu'à la cime des grands arbres, venez se résoudre en vapeur sur la surface veloutée des feuilles et affluer plus abondante aux lèvres toujours fraîches des fleurs. « C'est plus beau !» disait Rosette dans son enthousiasme. « Oui, c'est encore plus beau que le travers des sorgues à maigre mine !» La pluie elle-même ne nous arrêtait pas et je me rappelle que nous fîmes notre dernière promenade par une de ces pluies mêlées de soleil dans un joli ciel gris couleur de perles qui conviennent aux mignons paysages des environs de Paris autant qu'un soleil bleu à une olivette et qui les embellissent même comme certaines beautés de femmes à qui va bien le demi-deuil. Quelle fraîcheur il faisait! On eût dit que toutes les petites sources invisibles avaient fait irruption cette fois en trouvant les rudes écailles de l'écorce ou brisant la fine enveloppe des feuilles et des fleurs. Sous chaque arbre, sous chaque brin d'herbe, sourdait un filet d'eau et c'était, le long des étroits sentiers creusés dans le sable jaune, un murmure sans fin de ruisselets d'une heure et de cascades improvisées. Un ébénier en fleurs, planté dans un coin sauvage par le caprice de quelques forestiers, avait l'air d'un vrai lustre d'église avec ses longues grappes toutes chargées de clairs diamants. Sur les pentes, la mousse brillait, largement imprégnée d'eau, et les branches basses des châtaigniers étaient souillées de terre humide. Plus de jacinthes bleues, plus de jacinthes blanches, il ne restait que leurs frêles tiges aux feuilles lustrées. Les fleurs du muguet, soit délicates, fripées et fondues par l'averse, faisaient peine à voir comme des fillettes en robe claire que la pluie aurait surprises aux sorties du bal. Les oiseaux prisonniers pépillaient dans les arbres, les feuilles s'égouttaient à petit bruit sous le couvert et, à certaines places où Rosette, une heure auparavant, m'avait fait remarquer, non sans baisser les yeux d'une façon fort comique, un peu d'herbe foulée de la veille et un ruban perdu, nous retrouvions, tranquille entre les arbres, une petite flaque d'eau, marée microscopique où se mirait l'envers des feuilles et d'où sortaient, frissonnant à la brise comme des touffes de jonc, les pointes du gazon noyé. Nous rîmes un moment comme des fous à ce spectacle. Mais notre gaieté ne dura guère. Les 8 jours étaient écoulés, le Panthéon, bleu de vapeur et pareil à une montagne, se dressait au loin par-dessus les arbres. Cela nous fit songer qu'il fallait regagner Paris.